On va lire un texte, si vous voulez bien. Luc 19, versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre ce temps, Seigneur, de ta prédication, afin que tu nous remplisses de ton amour, remplisses de ta compréhension, remplisses de tout ce que tu veux que nous apprenions, Seigneur, au travers de ce texte. Merci pour ta parole, qui vient nous corriger, nous enseigner, nous reprendre, nous fortifier. Merci, notre Dieu, notre Roi, aussi, de libérer nos cœurs, afin que ta semence, Seigneur, puisse y venir, s'y semer, et qu'ainsi elle porte du fruit. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Qui ne connaissait pas l'histoire de Zachée? Vous connaissez tous l'histoire de Zachée? C'est bien, on apprend ça à l'école du dimanche normalement. Bon, tous ne sont pas allés à l'école du dimanche, n'est-ce pas? Moi par exemple. Toi tu es allé à l'école du dimanche? Non, tu es pas. Ah. Semble bien. T'étais trop vieux, toi, ça n'existait pas encore. Oui, merci ma sœur, tu es gentille. Je vais tout faire pour augmenter le son. C'est le micro, en fait, qui m'empêche de... Bon, enfin, bonsoir. Moi, j'ai appris Zachée à l'école du dimanche. Donc, c'est pas que je suis allé à l'école du dimanche quand j'étais petit, hein. Non, non, croyez pas ça. Mais j'ai fait l'école du dimanche pendant un certain temps. J'ai enseigné aux enfants à l'école du dimanche. J'ai trouvé ce moment merveilleux, vraiment merveilleux. On va, on puise, on va vraiment profond, les enfants sont curieux. Et les enfants peuvent poser des questions, ce qu'on peut pas faire normalement à la prédication. C'est plus compliqué. Mais j'ai bien aimé l'histoire de Zachée. Et si on prend le texte de l'histoire de Zachée, on va voir que il y a plusieurs personnages qui interviennent dans ce texte. Le premier, c'est Jésus. Jésus entre dans une ville qui s'appelle Jéricho. Pour la traverser, nous savons que le fait que Jésus traverse un village ou une ville, tout le monde va s'assembler. Tout le monde va faire en sorte qu'on va venir voir Jésus. Et en plus, il y a des gens qui suivaient Jésus. Ça devait faire énormément de bruit. Il devait y avoir énormément de monde. Ça devait sûrement être pire que la reconstitution que nous avons suivie, peut-être sur place ou alors à la télévision, la reconstitution de Waterloo. Où là, il y avait quand même pas mal de monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Un peu bizarre cette reconstitution. Je me suis moi posé cette question. J'ai dit, tiens, pourquoi on fait la reconstitution de cette date? C'est une défaite, pour certains. Une victoire pour d'autres, mais c'est quand même une défaite. Je me suis posé la question, pourquoi on faisait ça? Et pourquoi les gens venaient s'amasser pour vivre une reconstitution qui a fait plus de 100 000 morts? On est bizarre quand même, hein. On est bizarre. Mais bon, revenons au texte. Là, dans le texte, il y a Jésus, Jéricho, la foule, Une grande, grande foule s'amasse pour voir le Messie. C'est mieux quand même, n'est-ce pas, que d'aller voir cette bataille. Donc nous y avons vu qu'il y avait une grande foule, Jéricho, une ville de plus en plus, une ville en plus, beaucoup le suivaient, cela devait ajouter au bruit et à l'agitation de la ville. Il y avait aussi Zachée, un petit homme, riche, petit en taille, grand en importance peut-être. Il y avait aussi quelque chose qui m'a impressionné, moi, c'est cet arbre, ce sycomore. Grâce à ce sycomore, Zachée a pu voir Jésus, et Jésus a pu voir Zachée. Jésus traverse la ville et rencontre des tas de gens qui le touchent. Ils sont venus pour le voir, pourtant, un seul de toute cette foule va attirer son attention. Un petit homme monté dans un arbre. Non seulement Jésus le voit, mais en plus, il connaît son nom. Jésus n'a jamais rencontré Zachée. En tout cas, la Bible ne nous dit pas qu'il l'a déjà rencontré. Pourtant, il le nomme. Ils ne se connaissent pas, mais Jésus connaît son nom. Pour Zachée, cela doit être une révélation. Son pressentiment sur Jésus ne l'avait sûrement pas trompé. Il doit se dire comment un homme pourrait-il connaître mon nom? Comment cet homme pourrait-il connaître mon nom? Cela veut dire que c'est sûrement le Messie, celui que tous les Juifs attendent. Et c'est merveilleux pour lui, car le Messie lui parle à lui le petit. Le publicain, et même le chef des publicains, le voleur par excellence, toute une foule est là pour acclamer Jésus. Toute la foule, énormément de monde. Pourtant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il voit un homme, un petit homme. Cet homme qui collecte les impôts des Juifs pour le compte des Romains. Ce ne sont pas des gens appréciés ici, hein, dans ce temps-là. Les collecteurs d'impôts, je vous assure, c'était pas vraiment les gens les plus appréciés du monde. Non. Zachée est un juif et il s'est allié avec les Romains pour spolier ses condisciples. À ce moment-là, je sais pas comment on les appelait, mais aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que ça, on les appelait des collaborateurs, des collabos. On sait ce que ça veut dire collabo chez nous. On a en plus vu 100 ans, je crois. Enfin, on a vu une rétrospective des guerres. On a pu, je pense qu'on a pu percevoir, et on sait par l'histoire ce que c'est qu'un collabo. Nous connaissons ce mot collaborateur. Nous savons que cela veut dire ce que cela veut dire et comment nos grands-parents ont traité ceux qui ont collaboré avec les nazis. Pendant la dernière guerre mondiale, ils ont tous été exécutés. On les a humiliés. C'était une période sombre malgré tout. Pourtant, il fallait bien les punir. Sûrement, mais le jugement des hommes est faible. Est faible. Pourquoi je vous dis ça? Revenons au texte et imaginez dans ce contexte ce qui doit se passer dans la tête des gens qui sont venus pour voir ce prophète. Ou peut-être ce Messie. Dans la tête de la foule, certains viennent voir un prophète et d'autres viennent voir le Messie, le libérateur. Une foule entière qui vient pour le toucher, pour l'entendre, pour ne serait-ce que pour le voir. Et ce Messie, ce prophète, n'a Dieu que pour ce traître. Ce publicain. Ce petit homme qui doit avoir un complexe d'infériorité. Je suppose. Ce petit homme qui est obligé de monter sur un arbre tellement il est petit pour être vu. Combien, malgré sa fortune, parce qu'il est un homme riche, très important aux yeux des Romains, pas aux yeux des Juifs, mais riche et important, combien cet homme doit être humilié de devoir monter sur un arbre pour pouvoir être vu. En plus, il est méprisé par la foule. La foule ne va pas le laisser passer. La foule ne va même pas se déplacer pour lui. Ne va même pas faire un écart. Non. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Comment ce publicain peut même penser qu'il pourrait être vu par Jésus? La foule. La foule. Comment peut-il même croire que le prophète pourrait le voir? Lui, le paria, le pécheur par excellence. Passons à un autre sujet et voyons la ville dans laquelle Jésus entre. Vous souvenez-vous de la ville? C'est Jéricho. Ça vous dit rien, Jéricho? Les murailles de Jéricho, vous connaissez? On a fait ça aussi quand on était à l'école du dimanche. Elles sont tombées par la puissance de Dieu. Eh bien, c'est ce que va faire Jésus-Christ. Il va abattre cette muraille, qui est la foule. La foule qui est venue pour voir le prophète, le Messie, Jésus-Christ, va la renverser. Il va la renverser pour entrer dans la maison de Zachée, mais aussi afin que Zachée entre en contact avec Jésus. Cette muraille qui était la foule empêchait Jésus et Zachée d'aller les uns vers les autres. Jésus va abattre la morale de cette foule. Cette foule qui se dit venir pour voir le Messie, qui dit venir pour voir ce prophète, qu'est-ce qu'elle fait? Jésus, en abattant cette muraille, qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer et démontrer à la foule qu'ils ont raison de traiter Zachée de voleur. Oui, ils ont raison parce que c'est vrai. Mais, il y a plus grand face à cette foule, qui lui sait exactement ce qui se passe au sein de cette foule. Lui seul est capable de reconnaître ceux qui ont le cœur rempli de pardon. Le texte dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée veut se dépouiller et prêt à se dépouiller. Lui, le riche, prêt à perdre toute sa fortune. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus. Il comprend ce que Jésus fait. Lui le publicain, celui à qui on ne devrait même pas parler, le Messie vient manger chez lui. Nous verrons que la réaction de la foule est normale dans son contexte, mais Jésus vient renverser cette normalité. Jésus vient chercher des perdus, des pécheurs, des gens que personne ne voudrait. Lui, il connaît les cœurs repentants. Dans la foule, tous étaient venus pour voir Jésus, pour recevoir de lui une guérison, un miracle, une délivrance. Tous étaient venus pour eux. Mais Zachée était venu pour se repentir, pour avoir la possibilité de se repentir, comme cette femme qui avait des pertes de sang. Souvenez-vous, Marc 5, Marc 5, excuse-moi. Écoutez ça. Jésus, en allant avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plus tôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » La foi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» J'aime bien cette réplique. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais toute la foule t'a touché. Pardon. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi s'est sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Pourquoi je lis ce texte? D'abord parce qu'il y a une grande foule, parce qu'il y a Jésus, et parce qu'il y a une seule personne dans cette foule qui va toucher Jésus. Pourtant, toute la foule veut toucher Jésus, et tous ceux qui sont tout près le touchent, mais une seule va réellement la toucher, le toucher. Et il y a un passage qui dit, la femme effrayée et tremblante. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez pourquoi elle est effrayée et tremblante? Moi, j'ai travaillé le texte, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne sachiez pas, je vous surprends. C'est fait exprès. En fait, la Bible dit que la femme qui a une perte de sang menstruelle, d'accord, on ne peut pas s'asseoir sur la chaise sur laquelle elle s'est assise. On ne peut pas la toucher. D'accord. Elle est, pendant un certain temps, mise à part. Ok. Cette femme a une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle est mise à part. Depuis 12 ans, elle peut pas être mariée. Depuis 12 ans, elle peut pas avoir elle peut pas toucher un enfant. Depuis 12 ans. Vous imaginez? Pourquoi elle est effrayée? Parce qu'elle a touché, elle s'est permis, elle, de toucher un prophète. Il est considéré comme impur, la Bible dit, si la femme le touche. Elle est effrayée. Elle était frère. Et elle était prête à donner tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait. S'il lui restait un peu d'honneur, un peu de quoi que ce soit, cette femme, elle allait le risquer en touchant le bord du vêtement de Jésus. Tout risquer. Comme Zachée. Au moment où cette femme le touche, Jésus connaît la situation. Jésus sait. On peut rien lui cacher. On m'a offert tout ce qu'on veut. On a beau venir près de lui et dire « Jésus, je t'aime », Jésus sait. Ne vous inquiétez pas. Jésus sait. Connaît votre situation. Connaît votre vie. Tout ce qui est caché, même ce que vous cachez à vos conjoints, Jésus le sait. Mais revenons à la foule de tantôt, avec Zachée. Quelle est sa réaction? Luc 19. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, cette phrase? Ça veut dire que la foule ne se considère pas comme pécheur. La foule condamne cet homme en disant, c'est un pécheur. Et c'est vrai, c'est un pécheur. Mais elle ne se considère pas comme pécheur. Jésus vient pour des cœurs repentants. Pas pour la foule qui ne se reconnaît pas pécheur. Nous sommes parfois cette foule. Nous voulons bien de Jésus, mais nous ne sommes pas prêts à nous repentir. Pourquoi devrions-nous demander pardon? Après tout, pourquoi demander pardon? Jésus-Christ a payé pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes. Pourquoi devrions-nous? Parfois nous sommes comme ça. Parfois nous tolérons même certains péchés dans nos vies, en disant, bon, c'est pas grave, pour ma part, peut-être pas pour vous. Vous êtes de bons chrétiens, je pense pas que vous faites comme ça. Mais moi, dans ma vie, je me convainc que mon péché n'est pas si grave. Je suis fils de Dieu, c'est pas grave. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Et c'est grave. Très grave. Tous mes péchés sont graves. Et quand je suis comme ça, quand je me déculpabilise de mon péché, je suis comme cette foule. Je dis que les autres sont des pécheurs, mais moi, je ne suis pas un pécheur. C'est grave. Envers Jésus, nous devrions toujours, toujours, toujours être repentants. En tout temps. À chaque instant. Pardonne-moi, Seigneur. En se levant le matin. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Racheté, c'est vrai. Et sauvé, c'est vrai. Nous l'avons lu tantôt dans la présidence. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes pécheurs. Quand nous demandons pardon, il est facile de demander pardon à Jésus. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, entre guillemets. Nous devons aussi parfois demander pardon à notre propre conjoint. C'est un peu plus compliqué de demander pardon à notre conjoint. Voyez? Ou alors demander pardon à notre frère ou à notre sœur. Cela se complique encore un peu plus. Ou tout simplement aller demander pardon à notre voisin. Lui, il n'est pas chrétien. Comment il va me traiter? Il va me traiter d'imbécile, il va recommencer en plus. Pourtant. La prière du Notre Père, qu'est-ce qu'elle dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est dans la prière. Si c'est dans la prière, Jésus a concentré notre vie dans cette prière. « Mais revenons au sycomore. Le sycomore, nous devrions nous aussi être ce sycomore. Être capable de pouvoir porter les faibles, ceux qui veulent se repentir, être le lien entre ce pécheur et Jésus. Mais pour cela, il faut être humble, petit, ramassé, près du sol. Si nous ne sommes déjà pas capables de demander pardon à nos voisins, comment allons-nous pouvoir nous trouver en dessous ou près de lui pour l'aider? Aujourd'hui, nous sommes plutôt des chênes, majestueux, royaux, très élancés, très beaux, avec des branches très hautes. Impossible de monter. Moi, je taille des arbres de temps en temps là au camp. Il me faut une grande échelle pour aller dans un chêne. Hein. Je vous assure, le noisetier, ça va tout seul. Hein. Mais le chêne, pour aller dedans, il faut y mettre. Hein. Nous sommes ces chênes. Moi, j'ai mis fier comme Artaban. Pas assez courbé. Pas assez proche, peut-être. Ce que nous dit cette histoire, ce que Jésus veut apprendre à la foule, mais aussi à nous, c'est que si nous sommes suffisants comme cette foule, nous ne verrons pas ceux qui désirent rencontrer Jésus. Nous ne devons pas juger les pécheurs, bien au contraire, nous devons les porter, les élever vers Jésus, qui lui veut manger avec eux. Est-ce que vous croyez vraiment, ou est-ce que vous n'y croyez pas, que Jésus veut nous utiliser pour manger avec les pécheurs? Réfléchissons à cette phrase. Si nous sommes des hachés, et ça c'est pour ceux qui parmi nous seraient des hachés, n'ayons pas peur, mais approchez-vous de Jésus qui veut vivre avec vous. Jésus n'est passé peut-être qu'une seule fois dans cette ville. Et Jesse a saisi cette chance. Un texte hébreu 3:15 dit ceci, « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Si vous êtes des hachés, n'endurcissez pas votre cœur. Faites appel au pasteur, peut-être, de l'église, ou le frère qui est à côté de vous, ou la sœur. Afin qu'il voit un sycomore et non un chêne. Que celui qui soit à côté de vous, tous les jours, peut-être pas ici aujourd'hui, mais dans votre vie, ailleurs, puisse voir que vous êtes des sycomores. Que si jamais ils ont besoin d'aller vers Jésus, ils peuvent se tourner vers vous. Si jamais ils ont un problème dans leur vie, ils peuvent venir vous trouver et dire, tu peux pas prier pour cette personne parce que... Et que ce soit simplement naturel au travers des gens qui vous visitent, qui vous voient, qui savent que vous êtes des chrétiens. Des sycomores, plutôt que des chênes. Dans le texte que nous avons lu, je vais terminer avec ça, dans le texte que nous avons lu, il y avait Jésus. Jésus est invariable. Jésus ne changera jamais. Et Jésus veut renverser notre foule, la foule qui est en nous, celle qui pense que et Jésus, au travers de nous, veut aller chercher les perdus. Et pour aller chercher les perdus, il nous dit, voyez, si vous êtes humble, si vous êtes petit, alors le monde pourra venir en moi. Ne soyez pas comme ces chênes, soyez comme ces sycomores, près du sol, près des gens qui vous côtoient. Vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique pour prêcher l'Évangile. Pas besoin d'aller dans un autre pays pour prêcher l'Évangile. Non. Les premiers, c'est la maison. Le second, c'est les voisins. Pas besoin d'aller loin. Dieu vous a placé à un endroit bien particulier. Alors, essayons simplement, cherchons simplement à faire la volonté de Dieu, parce que Dieu est tout puissant pour la faire au travers de nous, si nous lui donnons la possibilité de le faire. Que Dieu vous bénisse pour cette prédication. Amen.